Les chemins de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Auditrice, auditeur d'FM Plus 91 FM à Montpellier, nous continuons à lire Les chemins de la sagesse que son auteur Michel Théron commente. Bonjour Michel Théron.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez commenté, Michel Théron, le premier chapitre de votre livre « Les chemins de la sagesse », le premier chapitre qui s'intitulait « La sagesse des nations », en évoquant les dictons et les proverbes, en insistant sur la contextualisation de ces proverbes dans nos vies, dans les situations concrètes que nous vivons, toujours faire intervenir notre libre arbitre, notre critique.
Capacité d'examen, oui, effectivement.
Ah, voilà, capacité d'examen, c'est ça.
Vous savez, Guylaine, il y a deux façons de considérer la culture, ou bien l'héritage que nous recevons et que nous subissons sans le mettre en question, c'est ce que les Allemands appellent Kultur, la culture héritage. Et ensuite, la formation de soi par soi, une formation par réexamen critique justement de cet héritage, c'est ce que les Allemands appellent Bildung, d'une racine que vous avez dans l'anglais to build, qui veut dire édifier, que vous avez aussi dans le Bildungsroman, dans le roman de formation. Donc, tout mon livre est un effort pour passer de la Kultur à la Bildung, c'est-à-dire de l'héritage que nous recevons aveuglément, qui est transmis par les éducateurs, les professeurs, les parents, l'école, etc., à cette culture formation. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se refaire en quelque sorte, vous voyez. Je crois que c'est propre à l'esprit protestant,
oui,
Guylaine.
Sûrement.
Sûrement.
Déconstruire pour se reconstruire. Nous avions commencé le deuxième chapitre, les projections, mais là vraiment nous en étions au tout début et nous allons probablement passer notre temps en commun là pour parler de ces projections. Qu'est-ce que c'est qu'une projection ?
Alors la projection, c'est le fait que notre imagination va se faire tout un monde, un cinéma à propos des rencontres par exemple que nous faisons avec les gens. Nous projetons sur les gens des scénarios qui sont en réalité en nous-mêmes. Alors nous avions la dernière fois parlé de l'admiration que nous éprouvons vis-à-vis d'êtres que nous parons justement d'une certaine aura, aura, A-U-R-E-A, un mot latin qui veut dire une auréole, un charisme si vous voulez, hein. Et donc la projection finalement est flatteuse, embellissante dans ce cas-là, et nous met dans une situation de suggestion, c'est-à-dire d'assujettissement, vous voyez. Alors le problème, c'est que si nous restons justement victimes de nos projections, eh bien, nous restons enfants. Hein, nous sommes toujours, comme je disais tout à l'heure, dans le cas de l'héritage imposé. Hein, voilà. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Il me semble que le fait d'être conscient que notre obéissance vient de nous, d'une projection que nous faisons, nous délivre de la faire, cette projection, aveuglément et plein de peur. Hein, nous avions vu, Guylaine, vous vous souvenez que c'était les peurs aussi qui alimentait nos projections. Hein. Alors prenons le cas d'un manipulateur qui profiterait de notre inconscience. Alors je ne sais pas, vous en connaissez certainement Guylaine.
Des manipulateurs,
hein. Ah oui, des pervers narcissiques.
Sûrement.
Vous en connaissez.
Peu, mais sûrement il y en a.
Vous savez, ces pervers narcissiques qui jouent sur la naïveté de leurs victimes. Ce qu'on pourrait appeler des vampires psychiques, hein, qui détruisent systématiquement tous ceux qui les entourent en se nourrissant de leurs substances. Nous en connaissons tous. Hein, voilà. Alors, dans ce cas-là, la simple prise de conscience du fait que nous sommes, d'une certaine façon, des proies consentantes, peut nous délivrer de notre suggestion, de notre assujettissement. Il y a donc des cas évidents où les projections asservissantes doivent être abandonnées. Et à cela doit concourir la réflexion. La Boétie disait à propos des tyrans, « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Hein, voyez, et La Fontaine le dit aussi dans Le Paysan du Danube, hein, Rome est par nos forfaits plus que par ses exploits l'instrument de notre supplice, voyez. Donc il faut se prémunir. Alors l'entourage, oui, Guylaine, je vous regarde à nouveau. Nous sommes en parfaite osmose, en parfaite symbiose tous les deux, mais il y a des cas où des êtres veulent manipuler les autres, voyez, les faire servir justement à leur propre dessein. Prenez le cas de Tartuffe dans la pièce de Molière, par exemple. Hein, bon, c'est un grand manipulateur et Orgon en est la victime. Par conséquent, il faut donc une réflexion et se rendre compte que le prestige dont nous entourons les personnes vient en réalité de nous-mêmes. Voilà.
Alors, est-ce qu'il faut détruire ces projections ?
Alors, je pense pas. Hein, je pense pas. Voilà, parce que mon livre est très prudent. Hein,
oui.
Il sème à foison les points d'interrogation. C'est ce que disait Gide. Un bon livre, je ne sais pas s'il est bon, mais enfin, Gide disait, il doit semer à foison les points d'interrogation. Hein. Toutes les projections ne sont pas à bannir. Hein. On pourrait imaginer une soumission, alors qu'il ne soit pas aveuglé, mais une obéissance lucide et qu'il ne soit pas dupé. Hein. Par exemple, dans le cas du théâtre social, où certains sont investis d'une forme de pouvoir, on peut distinguer l'homme et la fonction. Prenez le cas du président de la République, j'ai parlé du président Deschanel dans une émission précédente, hein, qui avait perdu toute son aura parce qu'il était tombé sur la voie de chemin de fer en pyjama. Hein. Bon, eh bien, l'homme, justement, nous fait rire, mais il y a quand même une fonction à préserver. Donc il faut bien distinguer les deux choses. L'homme peut être indigne et méprisable ou ridicule, mais la fonction elle-même peut rester respectable. Alors on peut alors jouer le jeu social, mais avec distance, sans être dupe de ce jeu. Je ne sais pas si c'est votre avis.
Si, je pense aussi. Avoir, en fait, vous insistez beaucoup sur cette conscience de cette projection que nous effectuons.
Absolument.
Voilà, la détruire ou pas, c'est avoir.
Voilà. Alors là, je vais utiliser un argument qui est assez trivial, mais enfin, je pense qu'il faut le soulever. Hein. Il peut y avoir une intelligence pratique dans le maintien des projections, parce que s'il n'y a pas la présence des projections intériorisées dans l'esprit des hommes, alors dans le corps social peut s'installer l'anarchie. Si plus aucune projection n'est possible, d'abord il y a eu le regard de Dieu dans les civilisations religieuses, puis il y a eu la peur du gendarme, et maintenant il y a la peur des caméras de surveillance. Mais on ne peut pas mettre des caméras de surveillance partout. Hein. Alors, si tout cela disparaît, si la peur de tout cela disparaît, alors l'individu n'en fait qu'à sa tête. Je répète que je ne suis pas fier de la trivialité de cet argument, vous voyez Guylaine, hein. Mais je me souviens que Voltaire disait que le regard de Dieu a été inventé pour que les domestiques se retiennent d'égorger leur maître. Vous voyez ? Donc, c'est très cynique.
Ouais.
Hein ? Mais c'est un argument quand même. Je ne sais pas ce qu'il vaut.
Vous le gardez, cet argument ?
Ah, je le garde.
Ouais.
Je le garde parce que je pense que la seule pensée du châtiment, par exemple, dans les civilisations traditionnelles, sans qu'il y ait même la vision effective de celui qui administre le châtiment, par exemple, la pensée du gendarme, sans qu'on le voit, etc. Ou alors, tenez aujourd'hui, la pensée du radar, hein. Hein. Bon, les routes, il ne faut plus dépasser les 80 km/h. Hein. Eh bien, il faut, cette projection intériorisée fait que, sans voir même le radar, on se dit « Ah, s'il était là, etc. » Donc, cela peut nous amener à lever le pied de l'accélérateur,
vous voyez, hein. C'est la carotte et le bâton ?
Voilà. Alors ça, j'ai bien prévenu, c'est trivial, mais comment dire, on en a peut-être besoin. Valérie disait, il est indispensable qu'un homme se voie sur le point d'être pendu dès qu'il pense mériter de l'être. Et alors, les philosophes ont dit crûment cette chose-là. Hein. Spinoza disait, la foule... Il y a une maxime de Tacite, hein, mais qui est reprise par Spinoza. Hein. La foule terrorise à moins qu'elle n'éprouve de la crainte. Hein. En latin, terret ulgus nisi metuat, vous voyez. Hein. Et pourquoi ne pas penser aussi à la phrase de Caligula, hein, qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, to dum metuant. Hein. Alors que ces considérations-là aient servi dans l'histoire à conforter la tyrannie, hein, qui est tout à fait détestable, bien entendu, ne signifie pas que la crainte n'est pas parfois une utilité sociale. Hein. Vous voyez que les choses sont extrêmement complexes. Hein. Il y a besoin parfois, trivialement, de cette crainte. Alors, Je répète que je n'en suis pas fier, le sage n'en sera pas fier non plus. On peut peut-être en sourire de cet argument. Il mène évidemment au conservatisme, mais s'il y a un conservatisme, c'est au moins un conservatisme éclairé. Et puisque de toute façon tout cela n'est qu'un jeu, ça c'est vraiment la fin de mon livre le montre, l'humour et le jeu, eh bien tant vaut-il jouer avec les règles du jeu, en respecter lucidement les règles, en sachant que ce ne sont que des règles, plutôt que de renverser la table du jeu. Parce qu'à ce moment-là, ça serait quelque chose de socialement suicidaire. Je vous vois qui c'est, Guylaine.
Oui, oui.
J'ai mis ce petit développement sans en être fier. Mais je me suis dit, parfois, il faut que la peur est parfois une motivation, si vous voulez. Un proverbe nous dit, tenez, j'ai parlé des proverbes lors d'une émission précédente, poignet vilain, il vous joindra, poignet vilain, il vous poindra. C'est-à-dire, si vous frappez quelqu'un, il vous couvrira de miel, il vous joindra. Mais si au contraire, vous le couvrez de miel, à ce moment-là, il vous poindra, il vous frappera.
Oui. Bah dis donc, ça c'est une leçon de vie impressionnante.
C'est une leçon, si vous voulez, c'est une sagesse empirique, purement empirique, qui n'a rien à voir de morale. Mais je pense qu'il faut soulever cette hypothèse. Après tout, pourquoi pas Mon livre n'exclut rien. Chaque thème a différents aspects, différentes facettes. Et je pense qu'on va voir maintenant un autre type de projection, mais il vaut mieux d'abord faire une virgule musicale.
Michel Théron, nous sommes en train de parcourir votre livre « Les chemins de la sagesse » que vous nous commentez au fur et à mesure des pages. Et nous sommes au chapitre des projections que nous avons bien présenté. Vous avez bien introduit cet aspect des projections. Et là, on pourrait rentrer dans un type de projection particulier, celle que les enfants font sur leurs parents.
Oui, c'est une projection fréquente. D'abord, les enfants étant petits, il est normal qu'ils voient leurs parents plus grands qu'eux, c'est-à-dire en contre-plongée. Leur vision est hyperbolique, c'est-à-dire magnifiante. On les voit plus grands qu'ils ne sont. Les parents sont des géants, omnipotents, omniscients, comme on s'imagine Dieu. Ensuite, les enfants grandissent. Et surtout maintenant où ils sont très grands, alors les enfants égalent et parfois souvent dépassent en stature, en grandeur, la taille de leurs parents. Alors ils les voient en plongée, c'est-à-dire de haut en bas, et finalement, regarder de haut, c'est mépriser. En latin, c'est despicere, regarder de haut. Alors que le contraire, la vision admirative, c'était adspicere, qui signifie
élevé.
Voilà, ou respiquerer aussi. Tandis que là, despiquerer, c'est voir d'en haut. Alors, c'est ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. Il me semble que le petit enfant va dire d'abord « papa sait tout » et puis l'adolescent va dire « il sait pas grand-chose » ou « j'en sais autant que papa » ou « j'en sais plus que papa ». Alors cette crise de l'adolescence, il faut donner au mot « crise » le sens grec « crisis » qui veut dire le jugement. C'est un jugement. Et ce jugement est souvent impitoyable. Vous savez, Victor Hugo dit « Mon père, ce héros au sourire si doux ». Eh bien, Georges Forest, un poète peu connu, marginal, disait au contraire « Mon père, ce zéro au sourire de Saint-Doux ».
Vous voyez, ils n'avaient pas le même âge tous les deux quand ils ont écrit cette phrase.
Ils n'avaient sûrement pas le même âge, voilà. Donc, c'est vrai que l'image du père change beaucoup à l'adolescence. Le roi est nu, comme on dit. Le roi est nu. Il n'y a plus d'oripeaux, tous les oripeaux. qu'il magnifiait. Mais enfin, cette question, elle est quand même complexe. Hein. Et il ne faut pas croire que cette condamnation est triomphale. Hein. Et parfois, dans la crise de l'adolescence, l'adolescent va se découvrir tout seul, dans un monde nu, sans quelqu'un à admirer, et cela peut le désespérer jusqu'à l'effondrement. Hein. Dans Antigone de Jean Anouilh, eh bien, Aimon, le fils de Créon, voit enfin son père tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout puissant, hein, et il lui dit « Je suis tout seul, le monde est nu, si je ne peux pas t'admirer. » À quoi Créon répond « On est tout seul, Aimon, le monde est nu. » Bon, ça c'est très nihiliste et très tragique, je n'irai pas jusque-là. Hein. Mais je pense quand même que les projections embellissantes que nous faisons sur nos parents sont nécessaires. Hein. Et elles sont utiles. Et elles tiennent à la nature même de notre psyché. Hein. Je pense par exemple à l'image du père. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre au père de Kafka,
oui. Guylaine.
Ah,
oui, oui, oui,
voilà, vous en souvenez.
Oui.
Hein.
Oui.
Voilà, vous voyez ce père...
Ouais.
Ouais. Il est terrifiant, hein, parce qu'il impose des lois auxquelles il ne se soumet pas lui-même. Mmh. Il dit aux enfants, mangez proprement, et lui-même, on le suit à la trace, il y a de la sauce partout sur la nappe, etc. Vous voyez ? Alors, un jour, il va punir un enfant pour une peccadille, un autre jour, pour quelque chose de beaucoup plus grave, il ne le punira pas. Vous voyez, l'esprit est ainsi fait, l'esprit humain est ainsi fait, qu'il cherche une proportion entre les choses, hein, un rapport. Une raison des choses. La raison en latin se dit ratio. Le rapport, c'est proportio. C'est la même racine. Hein. Il faut donc qu'il y ait une proportion, c'est-à-dire que à petite faute, petit châtiment, à grande faute, grand châtiment. En grec, ça s'appelle symmetria, qui a donné symétrie, hein, ce rapport. Or, il n'existe pas. Alors, le père est donc un saboteur de l'enfant. Hein. Mmh. C'est terrifiant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez
oui,
bien.
Oui,
de
oui, absolument.
Ce...
Oui.
C'est un saboteur oui. À un moment. Et Kafka lui-même avait reçu de son père une phrase qui renvoie au psaume hein, de la Bible. Hein, « Je te déchirerai comme un poisson hein. ». Bon, alors, une fois aussi, son père lui avait dit « Tu n'es qu'une misérable vermine ». Et alors, en vertu de ce qu'on appelle le pouvoir performatif du langage, qui fait arriver ce qu'il énonce, hein, eh bien, Kafka est devenu une vermine. C'est le sujet de son récit qui s'appelle « La métamorphose hein, ». Où un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa se trouva transformé en véritable vermine, vous voyez hein. Alors ce père est un ogre, hein. C'est le dieu de colère, il est terrible de tomber entre les mains du dieu vivant, hein, dit la Bible, vous voyez. Donc l'enfant est saboté. Bon, alors on se dit, il faut qu'il se délivre de l'image de son père et qu'il abandonne cette projection d'une image tutélaire et protectrice. Il ne faut plus y croire. Eh bien, la question est beaucoup plus complexe, Guylaine. Vous avez entendu parler de ces enfants battus par leurs parents, hein ? Eh bien, l'assistante sociale ou éventuellement le juge des enfants va décider d'un placement dans une autre famille, par exemple. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'enfant battu, quelque part, il continue d'aimer ses parents. Non pas les parents réels, mais les parents archétypaux, les parents mythiques, si vous voulez. C'est pour ça que la solution du placement n'est pas toujours une bonne solution. Je ne sais pas s'il y en a de bonnes solutions. Hein. C'est finalement la situation. On continue d'aimer son père mythique, même si le père réel est défaillant.
Donc la projection, vous montrez là que la projection, elle vient vraiment de notre propre vision des choses, quelle que soit la personne sur qui on projette.
Tout à fait.
Quelles que soient ses qualités ou...
Voilà. Chacun cherche, pour reprendre l'image des parents, son père avec un P majuscule dans son père, sa mère avec une M majuscule dans sa mère. Donc, il cherche un archétype. Hein. Il y a dans chaque être un besoin constitutif d'admiration et de projection qui dure toute la vie. Hein. Et même si ce n'est pas le cas, il faudrait déplorer la disparition de cet archétype. Que penser de quelqu'un qui ne l'éprouverait pas, qui n'éprouverait pas ce besoin d'admirer ? Ce serait un monstre froid, comme certains grands criminels, hein, incapables d'empathie, etc. Vous voyez, hein ? Donc, la perception lucide de ce que sont les êtres eux-mêmes, avec leurs défauts et leurs manques, est une chose. Mais d'autre part, la projection admirative en est une autre, qu'il faut quand même garder, hein, il me semble. Alors, il était autrefois satisfait, ce besoin, par l'image du parrain et de la marraine. Alors moi, je viens d'un milieu catholique où alors le parrain et la marraine, au baptême de l'enfant, s'engageaient pour l'enfant qui ne pouvait pas parler, infant, c'est qui ne parle pas en latin, s'engager sur la foi de cet enfant. Hein. Et après, l'enfant ayant capable de parler, il y avait le sacrement de confirmation, où alors on confirmait les promesses du baptême incarnées prononcées par le parrain et la marraine. Alors, je ne sais pas, en milieu protestant, comment ça se passe,
Guylaine ? Comme ça.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Ah, ben oui. Il y a quand même des points communs.
Il y a toujours des parrains et des marraines.
Oui, toujours des parrains et des marraines.
Ben voilà, ben c'est très bien. C'est très bien. C'est très utile. Moi, je suis agnostique, vous le savez, mais je trouve que là, il y a une vérité, une utilité très grande dans cette institution du parrain et de la marraine.
Il pourrait suppléer aux parents ?
Alors, en anglais, parrain s'appelle Godfather et marraine s'appelle Godmother, c'est-à-dire père divin, mère divine. Hein. Et alors, ils bénéficient d'une situation très avantageuse pour eux parce qu'ils ne vivent pas quotidiennement au contact de l'enfant. Ils sont éloignés de l'enfant. Et alors, les absents ont toujours raison, comme j'avais dit à propos des proverbes. Finalement, on aime mieux quelqu'un qui est loin que quelqu'un qui est près. Il y a un proverbe latin qui dit « Maior e longinquo reverentia », c'est-à-dire le respect augmente avec la distance. Hein. Donc, l'enfant, il voit son père et sa mère tous les jours. Donc, il voit les défauts nécessairement du père et de la mère. Hein. Mais le parrain et la marraine, on peut y penser de loin. Hein. Et ça, donc, c'est positif, si vous voulez. Hein. Mmh. Il y a là une vérité.
Donc, c'est utile. Parrain et marraine, c'est utile. Pour l'enfant, pour se construire.
Absolument.
Et pour ne pas...
Pour pouvoir s'édifier. Le parrain et la marraine sont comme les cariatides qui vont soutenir l'enfant balcon. Le balcon, si vous voulez, voilà, les cariatides. Bon, ces grandes images sont utiles. Vous voyez, moi je crois que sur les grandes religions, enfin je suis jungien, hein, je pense que les grandes religions sont devenues des systèmes psychothérapeutiques, des psychothérapies. Hein. Donc il est utile justement d'avoir ces grandes images. De même, les images, magnifiantes des parents, elles renaissent, je crois, à la mort des parents. Hein. Quand les parents meurent, ils naissent. Ils naissent en nous. Hein. Mmh. Ils retrouvent les archétypes en nous. Hein. Hélas, il faut qu'ils meurent peut-être pour qu'on se dise, non pas j'en sais plus que papa, ou papa c'est pas grand-chose, mais vraiment peut-être papa avait raison. Vous voyez, peut-être. Hein. Peut-être. Quand les parents meurent, ils naissent en nous. On aime mieux souvent les absents que les présents et les morts que les vivants.
Bon, Ils n'ont plus droit à la parole.
Donc, en tout cas... on est bien loin d'une sagesse péremptoire qui condamnerait les projections de tout ordre, qui ne s'en tiendrait qu'à la vision lucide de ce qui est ici et maintenant. Hein. Alors, bien sûr, cette position n'est pas fausse, hein, mais elle est loin de recouvrir la réalité humaine. Elle est dédaléenne et labyrinthique, cette réalité humaine. Hein. Elle est complexe et aucune position unilatérale ne convient pour en rendre compte.
Est-ce que ce que vous dites aussi rappelle ce que vous disiez dans votre livre, un peu plus en amont, qu'il y a un véritable combat entre les perceptions et les projections.
Absolument.
Que nous avons.
La vie est un combat entre perception réelle et projection. Mais souvent, la destruction des projections initie une espèce de cauchemar, hein, puisque on se trouve dans la solitude absolue, plus personne à admirer. Quelqu'un qui n'admirerait personne serait un monstre, non ? Vous ne croirez pas ?
Oui. J'essaie de m'imaginer ça, oui.
Quelqu'un qui n'admirerait personne.
Admirer, ça veut dire être sans modèle ?
Voilà, hein. On a toujours besoin d'un modèle d'identification. L'adolescent même, il a des posters dans sa chambre. Ça peut être un footballeur, une idole rock ou pop, etc. Hein. Mais on a toujours besoin de ces modèles d'identification. Alors voilà, après, Guylaine, vous voyez, j'ai parlé d'un autre tout autre domaine, hein, qui est les projections que nous faisons dans l'amour. Hein.
Ça, c'est voilà. Un vrai et grand sujet.
Alors ça, c'est un énorme sujet. Je ne sais pas si nous aurons le temps de finir pour cette émission, ce n'est pas grave.
Hein. Probablement pas.
Probablement
on peut
pas.
Commencer et continuer à la fin, et continuer la prochaine fois.
Ouais, on continuera la prochaine fois.
Alors oui, les projections que nous faisons dans l'amour, est-ce qu'elles ont à voir avec tout ce qu'on a dit sur...
Oui,
ce modèle,
oui. C'est... Mais elles sont à la fois problématiques et inévitables, vous voyez. Alors, problématiques d'abord. Bon, il y a, prenons le cas d'un amour possessif et instrumentalisant que certaines mères ont pour leur enfant. Elles se mettent à la place de leur enfant, elles projettent leur monde intérieur sur l'enfant, au lieu de se mettre elles-mêmes à la place de l'enfant. Alors, il y a des mères qui disent « Mets ton pull, j'ai froid hein? ». Bon, elles ont froid elles-mêmes, hein? Bon, donc l'enfant doit aussi avoir froid. « Mets ton pull, j'ai froid hein? ». Bon, je ne sais pas si vous avez vu le film de Ken Loach qui s'appelle Family Life. La mère dit à sa fille « Tu n'es qu'une partie de moi ». C'est terrifiant, ça, hein, c'est terrifiant. Alors la pauvre Janice, elle s'appelle Janice, cette jeune fille hein, dans le film, alors elle sombre dans une espèce de schizophrénie catatonique, c'est-à-dire immobilisée. Hein. Bon, parce que ça, cette mère a un amour vampirisant.
Elle ne lui reconnaît pas une identité propre.
Voilà. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Hein. Et alors, finalement, c'est quelque chose... Cet amour est un amour dévorant. Mmh. Hein, est un amour dévorant. Mmh. Je crois qu'il y a un livre de Lita Bassett qui s'appelle « Aimer sans dévorer ».
Oui, hein. C'est très
voilà.
Juste. Oui.
Ouais, « Aimer sans
aimer
dévorer »,
sans dévorer
voilà.
C'est ça. Avec une distance, alors.
Avec une distance. Hein.
Un respect de chacun.
Exactement.
Sa personnalité.
Non, là, la projection est très mauvaise. Là, et quand on projette son monde intérieur. Regardez aussi tous les investissements personnels et meurtriers dont certains parents chargent leurs enfants. Leur enfant, ils ne le voient pas eux-mêmes. Par exemple, le père n'a pas pu être un grand sportif. Il voudrait que son enfant soit un grand sportif. Un footballeur ou je sais pas quoi. Les parents voudraient que les enfants deviennent ce qu'eux-mêmes auraient voulu. Devenir, mais ce qu'ils n'ont pas pu devenir. Et ainsi, l'enfant devient, selon le mot de Jean-Paul Sartre dans Les mots, l'enfant ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Vous voyez voilà. Et alors, l'enfant, il va être écrasé par l'immensité de ce type d'attente et il ne pourra avoir qu'un comportement d'échec. Forcément, il y a un surinvestissement sur l'enfant, car l'enfant n'est jamais respecté tel qu'il est. Et ainsi se perpétue un massacre des innocents, un nouveau massacre des innocents. Hein.
Alors, est-ce que ce comportement peut mener à une pathologie ou chez l'enfant ou chez l'adulte ? Pathologique.
Plutôt chez l'enfant.
Chez l'enfant.
Ah oui, plutôt chez l'enfant.
L'adulte est quand même aussi malade, quelque part.
Oui, l'enfant, l'adulte est malade parce qu'il a besoin, il est dans un état de dépendance, de surcompenser un échec personnel, mettons, hein, bon. Mais surtout, l'enfant, il est l'objet, justement, d'une bienveillance qui est dévorante. Hein. Mm-hmm. Tous nos crimes sont des crimes d'amour, disait Solzhenitsyn. Hein. Bon, donc, on veut le bien de l'autre, mais en fait, on l'écrase par des projections. Alors, il y a un grand livre de sagesse que vous avez peut-être être lu, Guylaine, s'appelle Le prophète de Khalil Gibran. Gibran nous dit vos enfants ne sont pas vos enfants. Alors là, il y a ce qu'on appelle en rhétorique une antanaclase, c'est-à-dire la répétition d'un mot avec une affectation différente de sens à chaque occurrence du mot. Vos enfants ne sont pas vos enfants, c'est-à-dire vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils viennent grâce à vous, hein, c'est vous qui leur donnez la vie, hein, ils viennent à l'existence et ensuite ils ont leur vie, ils doivent vivre leur vie, hein, on ne peut pas vivre à la place de quelqu'un.
Vous n'en avez pas la possession.
Voilà. Ils appartiennent, les enfants, à la vie qui les attend. Ils ne nous appartiennent pas. Et alors, maintenant, la grande question, hein, c'est comment fonctionne l'amour dans sa modalité passionnelle ?
Eh bien, alors, là,
il est fait essentiellement de projection. Mais voilà, on va
s'arrêter parce qu'on se garde ce sujet-là pour l'émission suivante.
Magnifique sujet.
Les
projections dans la passion amoureuse. Voilà.
À la prochaine fois, Michel.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.